Les podcasts de Ciel et Espace en compagnie d'Hubert Reeves, troisième partie. Vous venez, Hubert, de nous montrer l'extraordinaire capacité de prédiction du Big Bang, une vertu qui, jusqu'à aujourd'hui, lui a permis de surmonter de nombreuses difficultés. Alors, évidemment, ça nous amène à parler de l'avenir. C'est pas nécessairement toujours très facile, mais vous citez un scientifique anglais qui s'appelle John Eccle, qui dit « Le monde est non seulement plus étrange que nous ne l'imaginons, mais plus étrange que nous sommes en mesure de l'imaginer. »
Oui, j'aime bien cette phrase.
C'est une très belle phrase.
Oui.
C'est-à-dire, alors, le Big Bang et l'avenir du Big Bang, aujourd'hui, Hubert Reeves, c'est quoi ?
Alors, donc là aussi, on peut se servir d'un modèle qui marche bien pour faire des prévisions. Et on peut se servir de la théorie du Big Bang pour essayer de prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Mais toujours avec ce proviso que si on avait fait cette prédiction à partir de la théorie du Big Bang avant l'énergie sombre, on aurait trouvé des choses différentes. Donc aujourd'hui, la question est la suivante. Nous savons qu'il y a cette énergie sombre, la matière sombre, tout cela. Nous avons des données sur la température de l'univers. Nous pouvons en faire des prévisions sur ce qui va se passer à l'avenir. Mais un des inconnus et qui est le plus troublant, c'est que cette énergie sombre, c'est, dans le cadre de la physique quantique, un état excité de la matière, ces bourdonnements de particules et antiparticules. Et en physique quantique, quand vous avez un état d'énergie, par exemple, vous prenez les atomes d'hydrogène, ces atomes d'hydrogène ont des états d'énergie. Si vous prenez un atome d'hydrogène dans un état excité, vous savez très bien ce qui peut se passer, c'est qu'il peut se désexciter et passer d'un état à l'autre. Ça, c'est une particularité des énergies quantiques, de la physique quantique, c'est que les états d'énergie sont quantifiés et qu'on peut passer d'un à l'autre. Et nous savons que dans le passé de l'univers, ça s'est passé à plusieurs reprises. Par exemple, nous savons qu'il y a eu ce qu'on appelle des transitions de phase, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers était composé de quarks et il est devenu, les quarks se sont assemblés pour devenir des protons et des neutrons. Et cela a représenté pour les densités d'énergie quantique comme un saut exactement analogue à ce qui se passe quand un atome d'hydrogène passe d'un état excité à un état fondamental. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y a eu des transitions électrofaibles dans lesquelles les forces électromagnétiques et les forces faibles se sont dissociées. Et donc, il est tout à fait possible que l'énergie, que la densité d'énergie, la constante cosmologique, qui a aujourd'hui une valeur que l'on connaît assez bien, et on commence à l'étudier, on est en mesure, récemment, on s'est demandé la question de savoir est-ce qu'elle change avec le temps. On s'est aperçu que dans les 5 derniers milliards d'années, elle est restée assez constante, c'est un résultat expérimental, mais s'il s'agit d'un état d'énergie d'une substance soumise aux lois de la physique quantique, certainement qui est le cas, elle pourrait également diminuer tout d'un coup. On pourrait passer d'un état d'énergie, c'est-à-dire une énergie sombre qui soit de 70% et qui pourrait d'un coup diminuer et devenir beaucoup plus faible. Donc, notre ignorance quant à pour les atomes d'hydrogène, on sait, on connaît les temps de vie. Si vous mettez un atome d'hydrogène dans un état excité, on connaît le temps de vie pour qu'il se revienne dans un état fondamental. Dans le cadre de l'énergie sombre, nous savons si peu de choses. Nous savons simplement que c'est possible. Et il est possible que dans quelques milliards ou centaines de milliards d'années, cette énergie sombre, qui aujourd'hui accélère le mouvement des galaxies, eh bien, d'un coup, retombe dans un état plus faible, peut-être pas son état fondamental, on ne sait pas où est-ce qu'elle est située, elle peut avoir plusieurs états, qu'elle passe dans un état plus faible et que toutes nos prévisions, évidemment, soient infirmées. Alors, supposons que ce n'est pas le cas, hein, parce que, justement, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de l'univers. Bon, je suppose que ce n'est pas le cas, mais je vous dis tout de suite, il reste cette hypothèse. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'univers est dominé par cette densité d'énergie sombre, 70%. Les modèles prévoient que non seulement elle domine l'univers, mais c'est elle qui va de plus en plus dominer. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, cette énergie sombre est constante, elle ne change pas avec le temps. Mais la densité d'énergie de matière, à cause de l'expansion de l'univers, la densité diminue. La densité d'énergie lumineuse, la densité d'énergie de matière diminue avec la température, avec le cube de la température en fait. Alors si vous avez une densité d'énergie qui est constante une densité d'énergie qui diminue avec le temps, eh bien, la densité qui est constante devient de plus en plus majoritaire. Donc, on passerait de plus en plus vers 70, 80, 90, 99 %. Alors, qu'est-ce qui se passerait à cette période? Eh bien, l'accélération des galaxies serait de plus en plus rapide. Et ce qui se passe, c'est qu'on verrait de moins en moins de galaxies. On verrait de moins en moins de galaxies et progressivement, on arriverait à un moment donné où on ne verrait plus aucune galaxie puisque toutes les galaxies seraient sorties par cette accélération de l'univers observable. Alors, c'est un argument que l'on défend aujourd'hui pour avoir des fonds pour observer les galaxies. On dit profitons-en pendant qu'il est temps parce qu'on verra de moins en moins de galaxies. Donc, et déjà, nous en perdons régulièrement à cause de cette accélération. Les galaxies qui étaient observables, c'est-à-dire dont la vitesse était inférieure à la vitesse de la lumière, et tout d'un coup, qui passent à un état où elles sont supérieures à la vitesse de la lumière. Donc, on ne peut plus les voir.
Le grand désert.
Le grand désert, oui.
Alors, cet avenir est lié, bien évidemment, au développement de théories, à un affinement des observations. Est-ce qu'il y a, comme vous en discutez dans ce livre, un mur de la connaissance, c'est-à-dire un endroit où, d'une certaine façon, on ne peut pas aller en termes d'observation, pas pour l'esprit humain, mais pour l'investigation physique classique, qu'il soit du début de l'univers ou qu'il soit une certaine taille même de la matière elle-même.
Alors, je vous rappellerai, quand on lit les livres des explorateurs du 19e siècle ou du 18e siècle, ces gens exploraient des continents, par exemple l'Australie ou le pôle sud, et ils faisaient des cartes. Et au centre de ces cartes, ils mettaient généralement une région blanche sur laquelle on écrivait « terra incognita », « terre inconnue ». Cette région blanche, c'était l'horizon des connaissances à cette époque, c'est-à-dire qu'ils étaient entrés dans ce continent et puis ils en étaient là. Et donc, ils ne pouvaient rien dire sur ce qu'il y avait au centre parce qu'ils n'étaient pas encore allés. De la même façon, nous reculons dans un territoire qui est le territoire du temps. Nous n'explorons pas un territoire d'espace comme l'Australie ou le pôle sud, nous explorons le territoire du temps. C'est-à-dire que nous essayons de remonter de plus en plus loin dans le passé et nous connaissons, nous observons, nous pouvons dire des choses. Comme ces explorateurs, nous avons un horizon, et dans cet horizon, c'est ce qui s'appelle le Big Bang. Le Big Bang, c'est vraiment le temps le plus reculé sur lequel nous soyons en mesure de dire des choses à partir des observations et des théories de la physique. Alors, cela, évidemment, pose la question que tout le monde pose, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, ce n'est pas une bonne question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le territoire blanc qui est au-delà de 13-14 milliards d'années. Est-ce que le temps existe toujours à ce moment-là? Cette frontière peut reculer. L'aventure de la science, c'est une exploration continue. On ne peut jamais dire, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir au-delà de cela, on ne pourra jamais. Et les progrès à la fois de la théorie, de la physique, et des observations nous permettront peut-être un jour de reculer encore un peu plus. Mais on sera toujours à une frontière. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y aura à un moment donné une limite. La physique progresse, les observations et les théories. Ce que nous savons aujourd'hui est bien supérieur à ce que nous savions il y a 30 ans ou 40 ans. Donc on peut espérer qu'on peut aller toujours plus loin. C'est une aventure dont personne ne connaît la fin. Et heureusement, parce que si on vous annonçait que c'est terminé, on s'ennuierait.
Et vous écrivez aussi qu'il nous faut nous méfier des préjugés et des idées reçues. Oui. C'est d'expérience?
C'est une expérience... c'est quelque chose que l'on voit assez souvent dans la vie des grands chercheurs. Je cite le cas d'Einstein, par exemple, qui est un homme qui a des idées reçues, disons, qui vont l'aider beaucoup, qui vont lui permettre d'aller très loin. Alors, l'idée qu'Einstein admet, c'est que l'univers peut être connu par des modèles mathématiques. C'est l'idée de Galilée au départ, c'est-à-dire qu'on peut prévoir tout ce qui peut se passer à partir des modèles mathématiques. Alors, il a d'abord cette idée, le hasard n'existe pas, Dieu ne joue pas au dé, vous le savez. D'autre part, le monde existe indépendamment de l'observation. C'est-à-dire que le monde existe là, indépendamment de notre mode d'observation. Alors, ces deux idées vont lui permettre d'aller très loin. Ils vont lui donner d'énergie pour développer cette nécessité d'une causalité. Ils vont lui permettre de développer la théorie de la relativité, qui marche extrêmement bien. Mais ces idées, appelons ça ces préjugés ou ces idées reçues ou ces certitudes, c'est certitude, ce dont il est certain, ce dont il a comme une idée acquise que ça c'est sûr.
Intime conviction.
Vont le limiter sérieusement. Einstein fait des choses merveilleuses de 1900 à 1925. À 1925, il se heurte à la physique quantique qui dit... Ici, il y a une partie aléatoire dans la nature. Il y a une partie qui n'est pas déterminée par les équations différentielles et leurs solutions. Et il va essayer... Alors, bon, il est d'ailleurs un de ceux qui ont amené les éléments fondateurs de la théorie quantique. Par exemple, l'effet photoélectrique est un des éléments fondateurs. Mais il va se dire, cette théorie, elle est provisoire. On va l'améliorer et on va rétablir la causalité absolue. On va éjecter... le hasard. Et il a ses conversations avec Niels Bohr qui sont célèbres, dans lesquelles Einstein dit à Niels Bohr, mais enfin Niels, Dieu ne joue pas au dé. Et Niels Bohr lui répond, Albert, cessez de dire à Dieu comment il doit se comporter. Et il y a cet autre dialogue dans lequel Einstein, justement, c'est sur la réalité de la réalité, c'est l'existence objective, réaliste du monde indépendamment de nos observations, de la façon dont on l'observe. Einstein dit à Niels Bohr, il lui dit, mais enfin, ne me dites pas que la Lune n'existe pas quand je la regarde pas. Et Bohr lui répond, mais comment voulez-vous que je le sache? Voilà, ces deux conversations illustrent bien les limitations d'Einstein, qui fait qu'alors qu'il a fait des choses merveilleuses jusqu'en 1925, de 25 à 55, c'est vraiment stérile. Tout ce qu'il fait à partir de là, c'est absolument stérile. Il n'ajoute rien parce qu'il est décidé à montrer que la physique quantique n'est qu'une théorie provisoire et qu'on peut aller plus loin dans ce sens-là. On ne peut pas aller plus loin dans ce sens-là. Il y a bien des choses qu'on peut améliorer. Mais dans le sens de la réalité du monde et dans le sens de l'existence de phénomènes aléatoires, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde admet que la physique quantique est vraiment valable et n'est pas qu'une physique transitoire. Pas sur ce plan, en tout cas.
Alors, une dernière question, parce qu'elle est relative à toutes ces chroniques qui démontrent ou en tout cas qui explique à chaque fois des éléments très précis qui nous permettent d'avancer et de mieux percevoir le monde qui nous entoure. Est-ce que ces révolutions qui ont commencé pour la physique dont vous parlez, c'est-à-dire la relativité, la mécanique quantique et d'une certaine façon aussi aujourd'hui énergie noire, matière, etc., tout ce qui a été découvert par les satellites, est-ce que tout ça finalement ça va pas mettre... Ça ne met pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à infuser ou en tout cas se diffuser en sachant qu'Einstein, on a fêté le siècle de la relativité générale 1905, deux ans, etc. Est-ce que ces informations, ces connaissances ne mettent pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se diffuser et d'une certaine façon, la science avance beaucoup plus vite?
Oui, bien sûr, c'est entre les théories les plus sophistiquées de la physique contemporaine et de l'astrophysique et la connaissance, disons la diffusion de la connaissance que nous essayons de faire, et il y a une très grande distance, et je ne sais pas si elle s'accroît ou non, mais c'est certain que les gens qui font de la diffusion des connaissances, comme vous avec Ciel et Espace et moi avec mes bouquins, nous ne pouvons pas aborder ces thèmes très sophistiqués parce qu'il faut une connaissance des mathématiques qui n'est pas la connaissance de tous les citoyens. Et les citoyens ont droit de savoir au moins dans les grandes lignes ce qui se dit.
Il y a un danger à parler de physique quantique pour des non-mathématiciens.
Pour moi, j'ai toujours refusé de vulgariser la physique quantique parce que ceux qui l'ont fait, je pense, il y a quelque chose d'une tromperie. Les gens ont l'impression de comprendre et par des images et qui ne sont pas vraiment valables. Pour comprendre la physique quantique, il faut vraiment se donner la peine de fouiller les équations, de penser aux équations, et ça, il faut avoir une préparation, bien sûr.
C'est de la physique qui peut se transformer en métaphysique.
Peut-être pas en métaphysique, mais en quelque chose de compliqué.
Merci. Merci Hubert Reeves. Je rappelle, les chroniques des atomes et des galaxies, c'est paru aux éditions du Seuil, collection Science Ouverte.
Science Ouverte.